communion indispensable. Voilà, c'est une communion, elle est vraiment indispensable. Mais Seigneur, merci pour ta parole. Et merci pour la présence de ton esprit, Seigneur, parce que nous avons besoin de lui, Seigneur, pour comprendre quelle est ta volonté, Seigneur, mieux te connaître. Te connaître, c'est la vie, Seigneur. Et nous voulons vivre en plénitude, Seigneur, de ta grâce, de ton amour, pour que nos vies produisent le fruit. Alors, Seigneur, ce matin, que ce message puisse faire grandir dans cette vision, Seigneur, de produire le fruit dans notre vie, d'être à l'unisson avec toi, de t'honorer par les fruits que nous produisons, que tu produis en nous, Seigneur. Amen. Alors, la semaine dernière, oui, effectivement, j'avais prêché sur une communion indispensable. Je sais pas, enfin, non, c'était pas la semaine dernière, c'était il y a 15 jours. Et j'avais posé la question, sommes-nous disciples? Sommes-nous disciples de Jésus ou chrétiens? Et parce que chrétien, je disais, bon, j'avais dit que c'est un terme qui ne veut rien dire. C'est un terme générique. Mais être disciple de Jésus, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a le mot discipline et puis Jésus, si on est disciple, Jésus est notre maître. Et notre maître, on le suit. Voilà. Et donc, ce sont vraiment ceux qui sont disciples de Jésus qui trouvent la capacité d'être disciples de Jésus avec toutes ses exigences, parce que nous avons un maître exigeant. Je ne sais pas si vous êtes aperçus. Hein. Eh bien, que ce n'est pas possible qu'on le fasse par nous-mêmes et que nous devons puiser en nous sa force et que cette force, on la puise dans la présence avec lui, dans l'écoute, etc. Donc, ceux qui sont disciples de Jésus, en fait, sont ceux qui passent du temps avec lui. Et sinon, on se déconnecte et Jésus n'est plus notre maître et on ne peut plus vraiment se considérer comme disciple. Et un disciple, ça se voit. Ça produit des fruits, ça se voit, ça aime le Seigneur, et j'avais bien insisté là-dessus, quand on aime le Seigneur, on ne peut pas désirer autre chose que la sanctification, et que quand on pèche, on est profondément contrit, on est désolé, on déteste le péché, et qu'on s'inscrit dans un combat contre le péché. Et celui qui ne hait pas le péché peut se poser des questions. Il n'est pas disciple de Jésus. Il est peut-être chrétien, entre guillemets. Il croit sans doute en l'évangile, ce n'est pas incompatible, mais il n'est pas en marche et il n'est pas disciple. Les disciples de Jésus, Jésus dit « suivez-moi ». Et « suivez-moi », Jésus, il ne restait pas statique. Et « suivez-moi », ça veut dire qu'on est en marche. Et alors évidemment, c'est le problème qu'a soulevé tout à l'heure Élie, dans son petit partage lors de la louange, j'ai dit il y a un problème, c'est qu'on est sanctifié, mais on est justifié devant Dieu, mais on est dans la marche, dans la sanctification. Et j'avais dit il y a 15 jours que ce qui est terrible, c'est que on a la volonté de la sanctification, et puis bien souvent on voit qu'on se casse la figure, on pêche, on n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait être pour notre Seigneur, et qu'on vit quelque part, les chrétiens vivent une tragédie entre leur idéal, qui est d'être quelqu'un qui ressemble à Jésus, et puis la réalité qui fait que des fois on n'est pas à la hauteur et qu'on pêche. Mais plus on grandit, c'est un chemin, pour reprendre les termes d'Élie tout à l'heure, c'est un chemin, et plus on grandit, moins c'est une tragédie. Ça, c'est la vie normale chrétienne. C'est-à-dire que plus on grandit, moins c'est une tragédie, parce que plus on a l'intelligence des choses, je dirais, et l'intelligence de laisser œuvrer Christ à notre place. Parce que si on ne fait pas ça, on est foutu, Et jamais on progressera. Voilà. Mais pour... pour conclure un petit peu le résumé de il y a 15 jours, j'avais pris Jean 15, 5. Voilà, Jésus qui nous parle, et qui nous dit, « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi, et en qui coule ma vie, et en qui coule ma vie. » Voilà, il faut la laisser couler, D'accord ? Si on reste 2 minutes en présence, le vase ne se remplit pas. Si on veut être plein de l'esprit, il faut passer du temps avec le Seigneur. Voilà. Donc, celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Et pas qu'un peu, en abondance. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Du tout. Ça, c'est à écrire en lettres d'or dans votre cerveau. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Il faut le convoquer toujours dans notre vie pour dire « Seigneur, tu viens en moi, tu me donnes la puissance de ton esprit. » Voilà. Et pour ceux qui veulent honorer Dieu, je ne sais pas si ça vous dit, honorer Dieu, si c'est quelque chose qui est dans votre cœur, bah, sachez que quand vous portez du fruit, ça honore Dieu, parce qu'un peu plus loin, hein, dans toujours le chapitre 15 de l'évangile de Jean, hein, au verset 8, c'est « Mon Père en sera honoré ». Il sera honoré de quoi ? Du fait qu'on porte du fruit. Et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Ça fait bien sûr écho à l'enseignement de Jésus sur la montagne, quand il dit « Vous êtes le sel, vous êtes la lumière ». Et comment on est le sel et la lumière ? Eh bien, en vivant les fruits de l'esprit, en étant des témoins de Jésus, en étant des petits Christ. C'est pour ça que bon, on nous a appelés chrétiens, parce que des petits Christ, ok, d'accord. Mais alors, bon, il faut endosser cette responsabilité, être à la hauteur de la tâche. Et alors, il y a un paradoxe, c'est que ça mobilise toute notre volonté, mais en même temps, on laisse tomber nos âmes pour laisser Jésus agir à notre place. C'est ça l'évangile, enfin, on va en parler. Alors aujourd'hui, je vais reposer la même question à peu près que la semaine dernière, c'est « Sommes-nous disciples de Jésus ou chrétiens ?» Voilà. Il y a deux possibilités. Voilà, je mets un autre éclairage, il y a plein de façons d'aborder les choses, hein. On peut les dire de plein de façons différentes, mais aujourd'hui je vais le faire d'une façon un peu différente. Je veux dire, il y a deux possibilités, donc il y a soit tu es disciple de Jésus, soit tu es chrétien, voilà, normatif ou ce que tu veux, tu es loin de Dieu en fait. Et bah, le Seigneur n'apprécie pas trop ça, en fait, hein, qu'on porte son nom en le désavouant par nos actes, hein, par nos attitudes. On rencontre dans les églises, voilà, des disciples, et il y en a qui ne sont pas. Ceux qui ne sont pas disciples, aujourd'hui, je vais les définir, bah, ce sont des gens qui croient en l'évangile, qui croient que l'évangile est la vérité. Alors, je vous choque peut-être, mais oui, dans l'église, il y a des gens qui ne sont pas disciples et qui croient que l'évangile est la vérité. Et le disciple, lui, il croit aussi que l'évangile est la vérité, ça c'est sûr, mais il la vit, il vit l'évangile, il veut le vivre l'évangile. Et il y a toute la différence. Et comment vivre l'évangile ? Ben, vous en doutez, hein, c'est le thème d'aujourd'hui. Eh ben, il faut être en communion permanente avec le Seigneur, tout le temps. Quand je dis il faut être en communion permanente, il y a un verset qui me vient à l'esprit comme ça, c'est « Faites toutes choses pour la gloire de Dieu ». Tout ce que vous faites en tout temps, faites pour la gloire de Dieu. Mais il faut avoir cette conscience-là. C'est quand on vient de travailler, il faut à un moment se connecter. Et c'est une habitude. C'est « Seigneur, mais je suis là. Je suis là, je suis un chrétien qui bosse. Voilà. Mais je suis chrétien qui bosse. Je suis disciple de Jésus qui est en train de bosser. Quand je suis papa, ben, j'endosse. Je suis aussi eh ben, sous la gouvernance de mon Dieu, qui est mon roi, qui est mon maître, qui me guide et à qui je remis ma vie. Dans tous les aspects de la vie, il y a le Seigneur qui est là. Et c'est une espèce de conscience à développer, et plus on grandit dans la vie, dans l'esprit, plus on développe cette conscience permanente qu'on est en présence de Dieu, qu'on le représente et qu'on ne peut rien faire sans lui. Et c'est ça qui va nous rendre victorieux, et c'est pour ça qu'on est moins en moins dépressif. Je veux dire, en étant dépressif, c'est de moins en moins une tragédie, parce qu'on est de plus en plus à l'unisson et les victoires s'enchaînent. Voilà, la vie chrétienne normale, ça c'est le titre d'un livre de Watchman Nee, ça, la vie chrétienne normale. C'est une vie de progrès, c'est une vie de victoire, c'est une vie de connexion avec le Seigneur, c'est une vie à l'unisson. Alors, je disais, bah, tiens, on va se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que l'évangile, quoi, hein, puisque si tu crois que l'évangile est la vérité, si tu la vis, c'est quoi vivre l'évangile? Élie l'a présenté tout à l'heure très bien. Hein, c'est, et on va le définir avec deux versets de Jérémie 31 qu'on connaît très très bien. Et on a tendance à citer le premier, mais moins le deuxième. Le premier, c'est 31-33, Jérémie 31-33, c'est « J'inscrirai mes instructions ». Je crois que c'est la Bible en français courant, ça. Hein, parce que « J'inscrirai mes instructions non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience ». Je les graverai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et elles sont gravées dans le cœur. Et dans les cœurs, il nous y dit aussi, hein, c'est dans Jérémie qu'on en reçoit des cœurs de chair, c'est-à-dire des cœurs sensibles. Et on est sensible à la sainteté. Et c'est pour ça qu'on est triste quand on, quand on pêche, parce qu'on a dans le cœur, on a un amour pour ces instructions, et on les trouve bonnes, et surtout, on sait qu'elles sont tellement la volonté de notre Père qui nous aime et qu'on aime, en fait, que c'est vraiment inscrit en force dans notre cœur. Et l'illustration la plus parfaite de cette parole, je dirais dans les psaumes, c'est le psaume 119. Tout le psaume 119, hein, dont Jean-Bernard a lu une petite partie mardi, c'est ça, quoi. Et celui qui clame le psaume 119, il a tout compris, quoi. Il a compris, on sent qu'il y a un amour pour Dieu et un amour pour la parole, parce que c'est la même chose, quoi. Enfin, ça va ensemble. Donc j'instruirai mes instructions non plus sur les tablettes de pierre, mais dans leur conscience. En fait, les instructions de Dieu dans notre conscience, elles sont gravées dans notre cœur. C'est le fait de le vivre, de les aimer, c'est l'action du Saint-Esprit en nous. Et l'Évangile, c'est l'action du Saint-Esprit en nous aussi. Et alors, on va au verset 34, la deuxième partie du verset 34. L'Évangile, vous allez le reconnaître aussi, hein. C'est Dieu qui dit à son peuple, dont nous sommes partis aujourd'hui, « Je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. »« Je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. » Ça, c'est ce qu'on brandit en premier d'habitude, c'est « Nous sommes justifiés par grâce. » Voilà. Hein, « Je pardonnerai leurs torts, nos torts sont pardonnés. Jésus est mort pour nous à notre place. » Nous étions des Barnabas et il a pris notre place. Hein, et grâce à ça, nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés, nous sommes rachetés. Ça n'est pas assez des choses à la croix, hein, je peux vous dire. Hein, c'est incroyable, c'est une véritable libération, c'est le tournant de l'humanité. Le moment où Jésus a donné sa vie à nous pour la croix, c'est le tournant de l'humanité. C'est jamais plus pareil qu'avant, jamais, jamais. Et c'est pour toujours, quoi. C'est vraiment ça. Et donc, oui, nous sommes justifiés par grâce. Alors, le credo des protestants, c'est, oui, par la foi seule, nous sommes justifiés, etc. Et c'est gratuit. Okay. Il y en a beaucoup qui pensent que l'Évangile, c'est ça. Mais si c'était que ça, ça nous poserait un problème. C'est parce que, ok, on est justifié, mais après, on pêche. Si c'était juste que ça, on pêcherait énormément. Il nous manquerait la puissance. Il nous manquerait la puissance pour vaincre le péché. Cette puissance qu'on va chercher dans la communion avec Dieu. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Donc, oui, bien sûr, nous sommes justifiés par grâce. Mais maintenant, Dieu, il n'est pas fou. Hein. S'il justifie des gens qui se comportent comme des gorées dans la société, qui pêchent, voilà, qui braquent des banques, qui, je sais pas moi, qui maltraitent les gens, etc. C'est bien de savoir. C'est ça, quand je dis dans l'Église, il y a plein de gens qui croient que Jésus est mort pour eux sur la croix, mais ils oublient une chose, c'est que maintenant, il faut convoquer la puissance de Dieu pour honorer ce que le Seigneur a fait sur la croix pour nous. Parce que ce qu'a fait Jésus sur la croix, ouais, on dit qu'il a fait ça par amour, c'est un geste d'amour, et ce qui a justifié, ce qui a motivé la croix, c'est l'amour. Mais il y a une deuxième chose qu'on oublie, ce qui a motivé la croix aussi, c'est la sainteté de Dieu. Parce que jamais il se serait mutilé comme il l'a fait, si c'était pour quelque chose de bénin, pour nous racheter de quelque chose de sans importance. On dit qu'on a été racheté à un grand prix. Bah oui, c'est moins qu'on puisse dire. On a été racheté par une mutilation du Seigneur. J'aime bien utiliser le terme mutilation parce que c'est fort, quoi. Il a tué une partie de lui-même. Il s'est arraché une partie de lui-même. Il a arraché une personne de ce qu'il est. Il a crucifié son fils. Il l'a donné. Et ça, pourquoi ? C'est parce que c'était inimaginable qu'on puisse envisager, nous, avoir une communion sans sainteté. Et c'est que la sainteté est tellement importante aux yeux de Dieu qu'il fallait absolument qu'il trouve une solution. Et cette solution, c'était l'agneau de Dieu qui est venu, hein, voilà, porter notre péché pour nous sanctifier. Parce qu'il ne peut pas. C'est inenvisageable. Il faut savoir que Dieu ne tolère pas le péché. On pourrait croire ça. Dieu ne tolère pas le péché. Il n'a jamais toléré le péché. Il ne tolérera jamais le péché. Il nous pardonne, mais ça, c'est différent. Vous comprenez ça? C'est très important. C'est vraiment très, très important. Et c'est pour ça que les détracteurs de Paul, quand il écrivait ça dans les Épîtres, nous sommes justifiés par la foi, disaient, mais attendez, cool, hein. Alors, on n'est plus obligé d'obéir à la loi, puisque la loi, elle est caduque, puisque Jésus est venu faire à notre place. ce que nous ne pouvons pas faire, parce que la loi, il n'y a personne qui réussit à la faire. Alors, cool, tu fais ce que tu veux, tu es racheté la loi, tu as ton grand maître là qui vient te pardonner de tes péchés à chaque fois que tu pèches. Alors, vas-y, tu tues ta belle-mère, pas grave, Jésus est mort pour moi sur la croix. Hein, tu craches sur ton patron parce qu'il vient de te faire une remarque désagréable, bah, c'est pas grave, Jésus est mort sur la croix. Et puis voilà, et c'est ce que reprochaient les détracteurs, les juifs, hein. C'est dans Romains 6 et puis aussi dans Galates, on va le lire, dans Galates 2:17, ils disent mais attendez, ça marche pas ton truc. Il dit mais vous allez pécher si vous dites que les commandements ne sont plus importants. Vous connaissez la nature humaine, tout le monde va pécher et puis le péché va surabonder et donc c'est la porte ouverte au péché. Ça marche pas. Hein, on n'est plus obligé d'obéir à la loi parce que Jésus est venu accomplir en nous justifiant. Bah, très bien, alors vous péchez, donc l'évangile, c'est autoriser le péché, donc l'évangile, c'est une porte ouverte au péché. C'est ce que reprochent les détracteurs de Paul hein, quand il dit « mais ton truc, c'est pas possible ». Et oui, mais Paul il dit « mais non, c'est impossible ». Parce que quand on a été touché par la grâce, quand on a été régénéré, il s'est passé quelque chose, je vais vous le lire, c'est un peu le sujet, c'est la profondeur de l'évangile aujourd'hui dans le thème de la communion. Quoi. Mais une fois qu'on est touché par la grâce, on ne peut plus vouloir pécher, c'est impossible. Ou alors on a fait une fausse conversion, on n'a pas été touché au fond, on n'a pas vraiment donné son cœur à Jésus. On a dit, ouais, moi ça m'intéresse la vie chrétienne parce que je veux avoir la vie éternelle, moi ça m'intéresse la vie chrétienne parce que je veux avoir la guérison, moi ça m'intéresse la vie chrétienne parce que la communauté elle est sympa et j'ai envie de m'intégrer dans cette grande famille. Mais au fond de nous, il n'y a pas cette repentance et cette conscience que on a péché, on a fait mal à Dieu, etc. Et ça, c'est une fausse conversion. Et on en trouve beaucoup dans les églises. Des gens comme ça qui ne sont pas encore touchés dans leur cœur et qui n'ont pas en haine le péché comme ça. Et alors, on va lire un petit peu, voilà, c'était Galates 2:17. Je l'ai relu il y a un petit instant, c'est pour ça que ça m'a motivé pour cette prédication. Et puis j'étais touché par un aspect, en lisant Galates 2:17. Voilà. Alors c'est en parole vivante, hein, d'accord ? Parce que en fait, j'ai touché, c'est parce que je l'ai lu en parole vivante et c'était plus vivant pour moi. Mais si maintenant nous aussi qui cherchons l'acquittement de notre culpabilité et l'approbation divine dans la communion avec le Christ. Vous voyez, c'est intéressant, c'est ça qui m'a touché en fait. Dans les autres versions, ce n'est pas marqué du tout dans la communion avec Christ, c'est si nous cherchons à être justifiés par Christ. Et ce que j'aime bien dans Parole vivante, c'est que les « en Christ » et les « par Christ » sont souvent traduits par « unis à Christ » et « en communion avec Christ ». Et ça prend vraiment... une signification profonde, en tout cas pour moi. Et vous allez voir que ce n'est pas une option de traduction, parce que je le montrerai par ailleurs, ce n'est pas une vision de la chose, mais c'est pour moi, c'est vraiment la réalité. Quoi. Et donc, mais si maintenant, nous aussi, qui cherchons l'acquittement de notre culpabilité et l'approbation divine dans la communion avec le Christ, nous sommes trouvés en faute, serait-ce le Christ qui nous aurait incité à pécher ? C'est ce que je vous ai dit récemment. Mais cela est impossible. Si on nous traite de pécheurs, ce reproche atteint le Christ lui-même, et qui dans ce cas servirait donc la cause du péché. On peut dire, voilà, ça c'est les détracteurs, ils disent, mais attends, mais Christ il sert la cause du péché, puisqu'il vous dit, bah, maintenant la loi est accomplie, et puis c'est par grâce, vous croyez en moi, et vous aurez la vie éternelle, et vous avez l'approbation de Dieu. Mais c'est pas possible. Et ce que j'aime bien dans cette traduction-là, d'abord, c'est... nous qui cherchons l'acquittement, c'est la définition du chrétien, disciple. Nous qui cherchons l'acquittement de notre culpabilité et l'approbation divine dans la communion avec le Christ. Vous allez voir, c'est quelque chose de très profond, on va aller voir d'autres versets après. Hein. C'est quelque chose qui a été acquis à la croix, mais que nous devons entretenir. Je vais vous montrer d'autres versets aussi, c'est vraiment très explicite. Et ce que j'aime bien aussi dans ce verset, c'est cet aspect-là. Ce reproche atteint le Christ lui-même. C'est-à-dire, si on pêche, ça atteint le Christ lui-même. Et je pense à ces versets de l'Ancien Testament. Alors, je ne sais pas où il est, mais vous le reconnaîtrez quand je vais vous le dire. c'est y a le Seigneur qui, voilà, qui dit à son peuple, votre cœur est loin de moi, regardez toutes les iniquités qu'il y a au sein du peuple. Il dit, vous me déshonorez vis-à-vis des autres peuples. Vous me déshonorez. C'est-à-dire que quand on pêche, on déshonore le Seigneur. C'est pour ça que quand on aime le Seigneur et qu'on sait que quand on pêche, on le déshonore, on ne peut pas être autrement que contrit, profondément désolé et motivé pour plus recommencer. Si le chrétien, il n'est pas profondément contrit quand il pêche, faut vraiment, c'est vraiment une sonnette d'alarme hurlante qui doit s'allumer dans sa vie en disant il y a un énorme problème. Si on accepte certains péchés parce qu'on essaie de lutter contre ça et on sait que c'est pas bon et qu'on dit bah oui bah de toute façon moi je suis racheté etc et puis on continue sans se poser les questions de la victoire en remportée et sans poser les questions des conséquences que ça a pour l'honneur du Seigneur, pour notre honneur personnel et puis ceux aussi à qui on fait mal etc, il faut que l'alarme, la sonnette d'alarme se mette à hurler. Vous êtes vraiment dans une pente extrêmement glissante. Et vous n'êtes pas en train du tout de vous inscrire en tant que disciple du Seigneur. C'est juste une parenthèse, mais c'est très important. La sanctification est très, très importante. Ça va vraiment une de nos préoccupations. Alors, pourquoi je dis ça? Alors, voilà, donc, il y avait le verset de 17:2. Hein, et puis, jamais, l'apôtre Paul continue ce verset en disant, oui, alors Christ servirait donc la cause du péché. Et il dit, mais jamais de la vie. Il écrit jamais de la vie. Et il y a un passage parallèle au début de Romains 6. C'est exactement la même chose, quoi. Mais oui, alors la porte au péché est ouverte. Mais non, pas du tout. Laissez-moi, j'ai envie de vous lire un commentaire de John Stott. Je ne sais pas si vous connaissez ce théologien, voilà, anglais. Moi, j'aime bien ces livres et quand j'ai envie de lire une étude, je prends ces livres parce que vous verrez ceux qui lisent des livres de John Stott dès les premières pages. Vous comprenez l'amour qu'il a pour le Seigneur, l'immense respect et l'amour pour la vérité. Ce qui transpire dans ces livres, c'est l'amour de la vérité. Et croyez-moi, il ne va pas brader la Bible, hein. Il ne va pas brader la vérité, il ne va pas croyer les révélations qui sont. Et c'est toujours très intéressant. Et à propos du verset que je viens de vous lire dans Galates, il fait un commentaire, je vais vous le lire parce que j'aime bien, je trouve qu'il est puissant. Il écrit cela, « Selon Galates 2:17, nous sommes déclarés justes dans l'union avec le Christ. En d'autres termes, notre justification a lieu quand nous sommes unis au Christ par la foi. Or, quiconque est uni au Christ n'est jamais plus la même personne. Au contraire, il est changé. Ce n'est pas seulement son statut devant Dieu qui est changé. Parce que souvent, il y a des discussions comme ça, en disant, oui, mais comme on voit qu'on continue à pécher, il dit, il y a mal donne, quoi. On est saint, mais on pêche. Et alors, oui, c'est ton statut devant Dieu. Quand tu seras au jugement, voilà, t'es fils de Dieu, etc. Mais se contenter de ça, je ne suis pas d'accord du tout. En tout cas, moi, je me positionne contre. Je me positionne contre ceux qui disent que l'apôtre Paul, quand il écrit la deuxième partie de Romains 17 en disant « Je suis vendu au péché, je fais le mal malgré moi, etc. », ils disent que c'est à la fin de sa vie, c'est un constat d'échec et qu'il continue de pécher. Je m'inscris contre ça. Je ne suis pas d'accord du tout. La vie chrétienne doit être une vie de victoire. Et on ne peut pas dire on est vaincu par le péché. On ne peut pas. C'est ne rien comprendre à ce qui s'est passé et c'est ne rien comprendre au fait que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Parce que si nous a envoyé le Saint-Esprit, c'est pour vaincre le Saint-Esprit. Et si on dit que nous sommes vendus au péché et que toute notre vie nous allons pécher et que c'est foutu, eh ben c'est nier la puissance du Saint-Esprit. Ni plus ni moins. On ne peut pas s'inscrire là-dedans. Et c'est pour ça qu'on peut dire, oui, j'ai le statut de fils de Dieu, mais je pêche et je suis pécheur. Non, on n'est plus pécheur. On est des gens rachetés, on est des fils de Dieu à qui ça arrive de pécher. Je sais, ça peut, c'est une subtilité, mais c'est super important. Nous ne sommes plus pécheurs. On l'a dit, tu l'as dit tout à l'heure, Élie, vous êtes justifié. Ben, si on est justifié, on n'est plus pécheur. On est racheté. On est racheté du péché. Il nous arrive de pécher, mais nous ne sommes plus pécheurs. Moi, voilà, c'est une subtilité, mais moi, je suis, mais vraiment, à remonter contre ça en disant « Ouais, mais bon, de toute façon, les péchés, ouais, on ne peut pas éviter. » Ce n'est pas vrai. Mais Jésus, il n'est pas mort pour que nous continuions de pécher, quoi. Il ne nous a pas donné le Saint-Esprit. Il fallait qu'il parte. Il a dit « Il faut que je parte pour vous donner le Saint-Esprit. » Mais ce n'est juste pas possible. C'est enlever toute la puissance qu'il met à notre disposition. Il faut enlever tout esprit. Et à ce moment-là, on donne raison à tous les détracteurs de l'évangile. C'est-à-dire que Jésus est venu pour que le péché surabonde. Bien sûr. Mais non, bien sûr que ce n'est pas ça. Mais si on accepte le péché, c'est donner raison aux détracteurs. Et se dire que ce qu'a fait Jésus, c'est un pétard mouillé pour l'humanité. Or, ce n'est pas vrai. Un chrétien doit être bienfaisant pour l'humanité. Il s'inscrit dans la lignée de son maître qui est bienfaisant pour l'humanité. Et on ne doit pas voir la vie autrement que d'aller de progrès en progrès pour notre amour pour le Seigneur et tout de suite redescendre pour l'amour de son prochain. Ce n'est pas possible. C'est nier l'évangile. C'est nier toute la volonté de Dieu de nous rendre meilleurs, d'aspirer à être des êtres parfaits. Voilà, c'est marqué « soyez parfaits ». Soyez parfaits, c'est un terme dynamique. Ce n'est pas marqué « vous êtes parfaits ». L'apôtre Paul lui-même reconnaissait à la fin de sa vie qu'il n'était pas encore parfait. Mais « soyez parfaits », c'est-à-dire « voulez, allez, vous allez honorer le Seigneur ». On est quand même des... C'est quand même pas rien. Vous savez qu'on est dans un pays étranger, nous dit la Bible. Nous sommes dans un royaume étranger, mais que nous sommes quand même les ambassadeurs de Christ. Nous sommes ses ambassadeurs. Et si on pêche, mais quel piètre ambassadeur sommes-nous du royaume céleste ? Vous voyez ? Et voilà, ben finalement, je crois que je suis en train de prêcher sur la sanctification. Mais pensez rien, je me laisse guider. Mais c'est tellement important, parce que moi, c'est vrai, je suis tellement convaincu de l'importance de l'amour de Dieu. Mais si on n'est pas remonté à fond contre le péché, mais il faut qu'on se pose des questions, quoi. On n'est plus dans l'amour, on n'est plus dans la grâce, on n'est plus dans l'évangile. On est dans une espèce de profession, mais voilà, comme dans toutes les religions du monde. Voilà, on essaie de pécher, et puis voilà, et puis à la fin, il y aura la balance, et puis il y aura, j'ai péché, ok, bon, c'est pas grave, parce que quand même, toutes les bonnes œuvres que j'ai, elles sont là, quoi. Donc c'est bon, ouais, je suis cool, quoi. Voilà, et puis à la limite, j'ai tellement bien fait, j'ai tellement fait de bonnes BA cette semaine que, allez. J'ai au moins 4 ou 5 crasses à faire à qui je veux pour que la balance elle penche du côté des BA. Et on est là, quoi. Enfin, si c'est l'évangile, c'est ça. Accepter le péché, c'est un peu cette idée-là aussi, quoi. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Quand on aime le Seigneur et quand on veut l'honorer, on est vent debout contre le péché, quoi. Et je finis le commentaire de Stott. Hein. Donc, au contraire, il est changé. Ce n'est nullement son statut devant Dieu qui est changé, c'est lui-même qui est changé, de façon radicale et permanente. Retourner à son ancienne vie et pécher comme il lui plaît s'avère franchement impossible. Alors c'est bizarre hein, ça. Il est devenu une nouvelle création et il a commencé une nouvelle vie. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est dans l'évangile, ça c'est 1 Corinthiens chapitre 5, verset 27. Nous sommes en nouveauté de vie, c'est une nouvelle vie. Etc. Alors, comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Dire les commentaires de John Stott, il est un peu perturbant quand même. Hein, il dit c'est impossible. Vous pouvez plus pécher. Vous pouvez plus pécher. Il est devenu une nouvelle création. Tout a changé. Retourner à son ancienne vie et pécher comme lui plaît s'avère franchement impossible. Or, dans les faits. On dit, c'est vrai, mais des fois, quand même, je suis retourné à mes péchés de l'ancienne vie, quoi. Mais alors, quel est le secret ? Alors, tout ça, c'est un processus, et tout à l'heure, tu l'as dit, hein, dans la prédication de Peter Schmidt, c'est un chemin, c'est un processus. Alors, ne vous découragez pas si vous arrivez de pécher, mais posez-vous des questions, et dites-vous, la prochaine fois, je ne me ferai pas avoir. Et comment on ne se fera pas avoir la prochaine fois ? Ben, je vais vous lire un verset qui est super intéressant, parole vivante aussi, vous allez voir. Et moi, quand même, ça m'a percuté quand j'ai dit, c'est ça, quoi. Vous allez voir. Secret de la victoire. Voilà. Romains 6, 11. Voilà, c'est ça, c'est vraiment aussi le cadre du chapitre 6 de Romains, tout ce que je dis, c'est vraiment tout ça, c'est expliqué. Relisez le chapitre 6 de Romains, il est super intéressant. Et donc, il dit, ah oui, ok, bon, alors vous êtes mort au péché, ok, bon. Alors, supposons que mon péché, par exemple, ça soit de manger une plaque de chocolat après chaque repas, d'accord ? La Bible nous dit dans Galates, hein, dans les dérives de celui qui ne marche pas par l'esprit, qu'on doit faire attention à ce qu'on mange et ne pas, voilà, je ne sais plus dans quel terme c'est dit, hein, mais voilà, soyez contrôlez ce que vous mangez et ne mangez pas trop, etc. Et donc, quelqu'un qui a l'habitude de manger une plaque de chocolat, on sait que ce n'est pas très bon pour la santé, tout à coup, il meurt. Voilà, okay. Alors, il est là sur son lit de mort, voilà, ou dans son cercueil, peu importe, et on ne le voit pas se lever pour aller manger une plaque de chocolat, il est mort, d'accord. Et nous, avec le péché, il dit, mais c'est marqué, vous êtes mort au péché. Mais oui, mais moi, je suis mort au péché, mais je vois bien que des fois, je pêche. Et alors, mais comment remporter cette victoire? Il faut qu'on se pose cette question. Hein, c'est les propos de la première partie de ma prédication maintenant, c'est il faut qu'on... On ne peut pas tolérer le péché. Voilà. Et alors regardez, lisez Romains 6, je vais vous le lire lentement. Voilà, il y a quelque chose de super intéressant. Considérez-vous comme des morts à l'égard de ces appels. Alors c'est des appels du péché. D'abord je dirais, considérez-vous, il y a une démarche de foi, elle est très importante. D'accord ? Si on dit que oui, on a le statut d'enfant de Dieu, mais c'est normal de pécher. Et si on dit que c'est normal au péché, on ne prend pas par la foi les paroles qui disent que nous sommes morts au péché. Vous allez voir, c'est quelque chose de profond et de réel, de spirituellement réel. Donc là, il y a aussi une dimension de foi. Et je crois que c'est important dans notre lutte contre le péché en disant, mais hey, pas question, hein. Toi tu ne reviens pas au péché, tu ne reviens pas parce que moi je suis mort au péché, tu n'as aucun pouvoir pour moi. Et c'est bien ça dont on a été libéré à la croix. On a reçu le pouvoir, alors qui a été mis en forme et validé par la réception du Saint-Esprit qui en nous œuvre par sa puissance, mais on a reçu ce pouvoir de lutter. Les gens du monde n'ont aucun pouvoir de lutter, si ce n'est leur propre volonté. Mais par la propre volonté, on sait qu'on se fait toujours avoir par le diable. Considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ces appels. Votre relation avec lui, avec le péché, est rompue. Regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu, écoutez la suite, dans une communion ininterrompue avec lui. Dans une communion ininterrompue avec lui. Et le secret de la victoire sur le péché, c'est la qualité de notre communion ininterrompue. Je peux vous garantir, je l'expérimente dans ma vie, plus je passe du temps avec le Seigneur, plus je prends un péché, on n'y pense jamais. Mais le péché, je crois, le plus banal qu'on commet, nous, sans nous en rendre compte, parce que, oui, l'adultère, ça, ouais, on fait hyper gaffe, le vol, ouais, ok, tout ça, ouais, d'accord. Mais le péché le plus banal qu'on accomplit régulièrement, c'est la peur, c'est la crainte. Et celui qui craint, c'est quelqu'un qui ne fait pas confiance au Seigneur. Et ne pas faire confiance au Seigneur, quelque part, c'est un péché. Et bien moi, je puis vous assurer que si vous passez des moments de qualité, si vous vous remplissez de la présence, si vous priez, si vous lisez la parole, si dans l'esprit vous écoutez le Seigneur vous dire qu'il est tout puissant, qu'il ne vous abandonnera jamais, c'est quand je parle de présence à Dieu, quand je parle de communion à Dieu, c'est ça aussi par la parole, dans l'esprit, c'est en présence, c'est recevoir ce qu'il y a à nous et qu'il dépose dans notre cœur. Si vous sortez d'un moment de présence avec le Seigneur et que vous avez de l'aversité, vous dites, mais attendez, ok, le Seigneur permet ce moment d'adversité, mais moi j'ai ce matin déposé dans mon cœur avec puissance que je n'ai rien à craindre, qu'il est au gouvernail, qu'il contrôle toute chose et que tout ce qui m'arrive contribue à mon bien. Donc je n'ai pas à craindre. Et bien, croyez-moi, votre mentalité elle change et le combat des pensées est gagné. Parce que vous savez que l'essentiel de la vie chrétienne, c'est un combat des pensées. Et ce combat des pensées, vous allez gagner parce que vous avez les pensées de Christ qui ont été déposées dans votre cœur. J'écrirai dans votre cœur, etc. Il y a le désir de faire et aussi la puissance de faire par le Saint-Esprit. C'est indispensable. Si vous n'avez pas une communion ininterrompue, vous allez vous faire saucissonner par le diable à un moment donné. Il est beaucoup plus fort que nous. Il faut qu'on revêt de Christ. Ça aussi, c'est une expression biblique. Il faut revêtir de Christ. C'est-à-dire son manteau placé, il vous enveloppe, il est là avec vous. Hein, voilà, puisque... alors, je finis le verset. Hein, regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ, votre Seigneur. Alors, pour appuyer ça, on va faire un petit tour dans Jean 14, 20. Et du Saint-Esprit, parce que tout ça derrière, hein, j'ai vu qu'il y a des tranches de fruits ici, là, c'est super, ça tombe très bien, parce que les fruits de l'Esprit, la marche de l'Esprit et les fruits qui en découlent, c'est en filigrane de toute cette prédication d'aujourd'hui. Parce que celui qui produit les fruits de l'Esprit, c'est, les fruits de l'Esprit, c'est un antidote au péché. C'est exactement l'antidote, c'est le contraire. D'ailleurs, il s'est présenté comme ça dans Galates. Vous avez d'abord tous les dérèglements de ceux qui marchent par la chair, et il dit, mais hop, si vous marchez par l'esprit, regardez ce qui se passe. Donc, d'un côté, vous marchez par la chair, c'est le bazar, les divisions, tous les dérèglements voilà, qu'on connaît, hein, et la dérive totale de l'humanité qu'on connaît bien malheureusement maintenant. Et puis, si vous marchez par l'esprit, eh ben, l'amour, la joie, la paix, la tempérance. Voilà, la paix, c'est l'inverse de la crainte, hein, quelque part. Hein, vous voyez que c'est l'inverse. Voilà, et les fruits de l'esprit, c'est le résultat de la marche de l'esprit. Et la marche de l'esprit, c'est une communion avec le Seigneur. Tout ça, c'est profondément cœur. Vous savez, tout est interrelié dans la Bible et tout est dans une cohérence profonde. Donc, alors j'avais dit qu'on allait lire dans... Jean 14, 20, voilà. Alors, le contexte de Jean 14, 20, c'est la venue du Saint-Esprit. Vous le connaissez un petit peu, je ne sais pas si on relit un petit peu avant ou pas, mais c'est vraiment... allez, on va lire peut-être le 19 avant, Jean 14. Non, moi, je suis dans l'acte, là, ça ne va pas aller. Non, on va reprendre 18, hein, Jean 14, 18. Alors, je suis en parole vivante. Hein. Non, je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins dans ce monde. Je reviendrai auprès de vous. Sous peu, le monde ne me verra plus. Vous, par contre, vous me verrez parce que je suis vivant et que vous aussi, vous vivrez de la même vie. Ça, c'est super puissant, quoi. Il y a une communion dans notre, de la vie du Seigneur en nous. Je ne vais pas faire de commentaire de chaque ligne, parce que sinon, je n'aurai jamais fini. Mais... Quand ce jour viendra, verset 20, vous reconnaîtrez clairement que je suis inséparable de mon Père, vivant dans une communion intime avec lui. Vous voyez que Jésus lui-même, c'est l'intimité, la communion, c'est quelque chose qui vivait. C'est, nous sommes de la même nature. Et je pense que quand on dit que c'est un des aspects, je pense, quand je pense à ça, c'est nous sommes faits à l'image de Dieu. Et je pense que c'est un des, il y a plein d'aspects quand on réfléchit sur être fait à l'image de Dieu. Ben c'est cette capacité de communion, quoi, en esprit, parce que nous avons un esprit et Dieu est esprit et qu'on peut se connecter. Et cette capacité spirituelle qui nous est donnée, c'est ça qu'on a entre autres. Il y a aussi l'amour, par exemple, hein, mais c'est lié en fait, et qu'on est à l'image de Dieu. Donc je continue. Vous saurez aussi que vous êtes en communion avec moi, que vous vivez en moi et que moi je vis en vous. Alors là, ça, moi, je trouve ça trop fort, quoi. Je relis la fin. Que vous vivez en moi et moi que je vis en vous. C'est tout à fait impossible. C'est rationnellement impossible. Moi, pour mes petits élèves qui apprennent à lire, j'ai un fichier de lecture et... c'est un fichier où ils lisent une consigne et ils doivent réaliser. C'est par exemple, dessine un carré. Ah, c'est marqué. Parce que vous savez, les petits CP, quand ils apprennent à lire, ils lisent des fois et puis je leur demande à la fin, t'as compris ce que t'as eu ? Mais écoute ce que tu lis, parce qu'ils sont tellement concentrés sur décoder comme ça, là, ils annonnent et puis ils arrivent à la fin et puis ils n'ont même pas écouté ce qu'ils disaient. Ils disent, non, j'ai pas compris, j'ai oublié d'écouter. Et donc je leur apprends et je dis, les meilleurs moyens pour qu'ils soient obligés d'écouter ce qu'ils disent, c'est de leur faire des petites consignes, quoi. Donc, dessine un carré, si tu ne dessines pas un carré, c'est que tu n'as pas compris, tu n'as pas écouté ce que tu as fait. Et dans mes consignes, tu dessines un carré et dans le carré, tu dessines un rond. Okay. Des fois, il y en a qui se plantent. ils font d'abord le rond, puis ils dessinent le carré au milieu. Je dis, ah oui, mais regarde comment c'est écrit. Puis bon, j'ai des subtilités, je fais des petits pièges, et puis ça m'amuse beaucoup. Mais à un moment donné, c'est soit le carré il est dans le rond, soit le rond est dans le carré. Mais ils ne peuvent pas être les deux l'un dans l'autre, ce n'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous êtes d'accord? Et ben là, c'est marqué que ben, c'est les deux en même temps. C'est marqué que c'est les deux en même temps. Jésus, il nous dit, voilà, c'est juste pas possible, normalement. Enfin, on sait que le Seigneur, il nous dépasse complètement. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que nous, on ne comprend pas grand-chose. Mais Jésus, il dit, pour que vous vivez en moi et que moi, je vis en vous. C'est soit il est en nous, soit nous, on est en lui, mais ce n'est pas possible. Et quelle est la réponse à ça? Mais moi, j'ai trouvé, c'est une espèce de fusion. C'est une espèce de fusion. Il n'y a qu'un moyen de faire. Vous avez un carré, vous avez un rond, supposons qu'ils soient en métal, et vous dites que le carré en métal, il est dans le carré en rond, etc. Je dis, bah, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'ils soient les deux l'un dans l'autre, on va les fondre et on va les faire une seule chose. Et vous savez qu'on n'est qu'une seule chose avec Jésus. On est une seule. On est tellement uni qu'on devient une seule chose avec Jésus. C'est dans la Bible. On va prendre Romains 6, 5, toujours en parole vivante. Alors c'est vrai que, voilà, moi j'aime bien la parole vivante, elle insiste sur la communion en fait, sur notre union profonde avec le Seigneur. Et c'est quand même super puissant. Romains 6, 5, voilà, lisez, c'est marqué. Hein. En effet, nous sommes devenus un seul et même être avec lui, avec le Seigneur. Nous sommes devenus un seul et même être. Alors quand je vous dis la communion, en fait, c'est pas tant un effort que nous devons faire. La communion avec Dieu, la fusion, c'est quelque chose qui est acté et qui a été acté à la croix. Parce que vous voyez, c'est marqué « en effet, nous sommes devenus ». Alors, si c'est marqué « en effet », c'est que c'est une relation de cause à effet que on peut lire un petit peu avant pour arriver au « en effet ». Je vous propose de lire à partir du verset 3, donc toujours moi dans la parole vivante, hein, donc Romains 6, verset 3, « Auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort au péché? Ou bien ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été immergés en Jésus-Christ, nous avons été plongés en sa mort? Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. » C'est écrit ça, c'est pas une vision de l'esprit en disant « oui, c'est une façon de parler », mais c'est écrit ça. Et pourquoi on ne le croirait pas si c'est marqué? Et pourquoi cela? Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse de Dieu. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Voilà pourquoi John Stott il disait, mais c'est impossible que vous retourniez à votre ancienne vie. Parce que réellement, il s'est passé quelque chose de nouveau. Et que ça, en fait, eh bien, c'est une réalité qu'il faut un peu s'approprier. Pourquoi? Parce que, ben, on va en conclure là, parce qu'après, ça serait trop long, j'ai prévu pas mal d'autres choses. Mais, le problème qui nous empêche de s'approprier cette nouvelle vie, c'est parce que notre ancienne vie est restée. Et elle est restée en nous, c'est dans notre cerveau. C'est toutes les blessures du passé, toutes ces choses, tous ces stigmates des péchés, des souffrances passées, elles sont restées. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a fait ça. Ça aurait été idéal, si j'avais un conseiller à dire, c'est, Seigneur, vous avez besoin d'un conseiller, j'ai une suggestion à vous faire. Mais, ça veut dire qu'on ne comprend pas grand-chose. Mais si j'avais un conseiller, je dis, mais Seigneur, une question plutôt lui poser, Seigneur, mais pourquoi à notre conversion, tu n'as pas renouvelé notre cerveau entièrement? Ça aurait été tellement plus simple. Pourquoi? Oui, nous sommes puisque tu nous dis que nous sommes une nouvelle créature, pourquoi tu n'as pas changé notre cerveau avec nous? Et il y a une raison, il y a des raisons, il y en a beaucoup, mais je suis sûr que de toute façon, on n'en trouvera jamais assez pour comprendre ce qui se passe. Toujours est-il que c'est comme ça, on vient de le lire, c'est la vérité. La vérité, c'est que, eh ben, il y a notre nature adamique qui est là. Et parce que c'est notre cerveau, c'est notre vieux cerveau, et que peu à peu nous sommes transformés, nous avons nos pensées renouvelées, ça aussi c'est profondément biblique. Et comment nous avons nos ressources? Et en fait, plus qu'un changement de mentalité, c'est une appropriation. Moi, j'aime bien le mot approprier ce qui est fait. C'est que nous sommes des êtres nouveaux. Nous avons un être ancien et un être nouveau. Et l'être ancien, on a reçu la capacité dans l'esprit de le chasser. Voilà, on a reçu la puissance en nous de le chasser. Parce que l'être ancien ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Si vous accueillez par votre relation à Dieu de qualité, si vous vous remplissez de l'Esprit, la vie de l'Esprit, on parle d'être rempli de l'Esprit, votre être adamique, il est chassé dehors. C'est automatique. Plus vous êtes rempli de l'Esprit, et c'est toute une vie, c'est tout un cheminement, plus votre être adamique, il est là. Et on peut s'approprier la réalité qui est décrite ici. D'accord ? C'est une réalité. Nous sommes des êtres nouveaux. Il y a l'être nouveau, il y a l'être ancien. Et tout ça, eh bien, dans une communion ininterrompue, avec le verset que je vous ai lu tout à l'heure, on peut eh bien, le valoriser, le remplir, être rempli de l'Esprit pour être des victorieux contre cet intolérable péché que nous ne pouvons pas tolérer. Voilà, je vais conclure là. J'ai prévu d'autres choses, mais ce n'est pas grave, parce qu'après, ça fera trop de choses. Oui. Exact. C'est l'alliance. C'est l'alliance. Et alors, on peut. Alors, on ne va pas faire, mais l'alliance, voilà, c'est ça, quoi, un peu. Bon, alors, ce n'est pas vraiment fondu, mais bon, à la limite. Comment on a fait pour. Il a bien fallu fondre une des parties pour les mettre dans l'une dans l'autre, quoi. Et c'est l'alliance. Et en fait, mais oui, c'est ça, nous sommes sous la nouvelle alliance. Le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance. C'est une alliance, mais c'est profond. C'est une union. Et communion, union, comme c'est en latin, c'est avec, d'accord ? C'est union, c'est une union avec. Bon, c'est quasiment la même chose, union. Mais c'est encore plus fort, communion. Et voilà, quoi. Et cette communion, c'est l'alliance. C'est une alliance vécue. Et qu'est-ce qui va nous faire vivre et remporter les victoires sur le péché ? C'est de vivre cette alliance. C'est de marcher dans la sainteté. Mais marcher dans la sainteté, c'est aller chercher... par le Saint-Esprit dans une vie de ce qui est et nous remplir. Voilà, j'ai fini le message d'un peu différent, mais c'est pas grave. Et je pense que c'est tellement important d'insister là-dessus. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que ce que je veux montrer, c'est que si on ne passe pas du temps avec le Seigneur, on est fichu. Il y a deux sortes de chrétiens, les chrétiens victorieux, et vous voyez, ça se voit tout de suite. Vous entrez, celui qui a les fruits de l'Esprit, ça se voit tout de suite, il n'a même pas besoin de parler. Dans son travail, il n'a même pas besoin de témoigner. Les gens vont lui dire, mais qu'est-ce que tu as de plus, toi ? Mais celui qui vit l'amour, la joie, la paix en permanence, et quelles que soient les circonstances, quand il jouit la tempérance, quand il vit la douceur, la bonté, la bienveillance, mais c'est un être exceptionnel. Ben forcément, c'est qui, ça ? Ce sont les caractéristiques de Jésus. C'est Jésus en personne. C'est toutes ces caractéristiques, c'est le neuf fruits de l'esprit, c'est la manifestation de Jésus, c'est la description de Jésus. Et si on devient des petits Christ, mais on est des témoins, on n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche, quoi. Comprenez ça. Mais ça, on ne pourra pas l'avoir si on n'est pas en communion, si on se laisse remplir de l'esprit. Voilà, on va prier. Hein, Seigneur. Seigneur, oui, ta parole est absolument merveilleuse, tes plans sont absolument merveilleux. C'est vrai que souvent, on ne les comprend pas parce que avec notre petit entendement, voilà, on est limité. Mais tu nous dis, Seigneur, tu nous dis que d'abord, tu es venu pour nous sauver et qu'après, que tu ne nous laisses pas comme des orphelins pour nous débrouiller contre le péché tout seul, mais que tu nous as envoyé ton Saint-Esprit. Alors, Seigneur, nous, on veut apprendre, Seigneur, à se laisser remplir de ton esprit dans la communion avec toi. On veut même... Désirer toujours plus, Seigneur, être en communion, avoir soif, se laisser nourrir. Seigneur, merci pour ton plan parfait. Seigneur, incline-nous, donne-nous cette intelligence à sélectionner notre temps, Seigneur, notre temps inutile, le laisser de côté, tout ce dont on n'a pas besoin, qui nous empêche de nous unir avec toi, de recevoir toute cette grâce, tout cet amour que tu mets à notre disposition, mais que nous ne pouvons pas recevoir si nous ne nous laissons pas remplir. Seigneur, donne-nous cette sagesse de nous laisser remplir tous les jours pour te voir ta puissance, pour voir ta puissance agir dans nos vies et croître l'amour et croître les victoires, Seigneur, pour ta gloire et notre joie. Amen.